Vous êtes sur France Culture, le journal de 6h30 par Clara Lecoq-Réal. Bonjour.
Bonjour Toufik, bonjour à tous. La France détaille son plan de relance de 100 milliards d'euros aujourd'hui. Des investissements sur 2 ans pour retrouver le niveau d'avant la crise d'ici à 2022. Mais où ira l'argent et surtout d'où vient-il ? Élément de réponse dans ce journal. Nous vous expliquerons aussi pourquoi un projet de loi présenté aujourd'hui en Conseil des ministres agace les écologistes. Il permet finalement d'utiliser des néonicotinoïdes sur les cultures de betteraves sucrières. Un retour en arrière. Les faits reprochés aux accusés du procès des attentats de janvier 2015, les faits ont été rappelés hier en première journée d'audience. Nous vous la détaillerons dans un instant. Et puis nous reviendrons sur la visite d'Emmanuel Macron en Irak, c'était hier. Le président français a posé les bases d'un rapprochement franco-irakien face aux voisins dans la région. 100 milliards d'euros sur la table pour relancer une économie française. Le Premier ministre Jean Castex présente aujourd'hui son traitement de choc face à la crise. Un plan de relance donc qui doit se déployer sur 2 ans et qui s'articule sur 3 axes. La transition écologique, la compétitivité et la cohésion territoriale. Pour le sénateur Les Républicains de la Manche Philippe Bas, le tout doit être pensé sur moyen et long terme au niveau local. Il s'en explique.
Premièrement, je voudrais que ce soit beaucoup d'investissements. Quand on investit, on s'enrichit. Quand on fait de la dépense de fonctionnement, on s'appauvrit. Mais deuxièmement, il y a des entreprises, et notamment des toutes petites entreprises, des artisans, des commerçants, quelques agriculteurs aussi, dont la trésorerie est exsangue. On a eu des reports de charges, il faut passer pour eux du report de charges à l'annulation de charges. C'est très important. Troisièmement, on a vu pendant le Covid que les collectivités sont souvent plus réactives que l'État. Je voudrais que, pour aider nos entreprises, on passe massivement par les régions qui connaissent mieux le terrain, sont plus rapides pour instruire les dossiers. Si on fait tout ça et si en plus on aide les collectivités à investir, on aide les gens à faire travailler le bâtiment, on aide le numérique, on aide les énergies renouvelables, alors on aura un plan de relance qui sera intéressant.
Le sénateur Philippe Bas, interrogé par Pierre Coquelin de France Bleu Cotentin. Voilà donc pour les attentes autour de cette enveloppe de 100 milliards d'euros. Mais comment la finance-t-on ? Explication d'Anne-Laure Jumet.
Sur ces 100 milliards d'euros, 40 milliards proviennent de fonds européens, mais ils n'arriveront pas tout de suite dans la poche de l'État. Selon Bercy, seuls 10% de ces sommes pourront être mobilisées d'ici juin 2021. Il va donc falloir faire des avances et l'Union européenne remboursera ensuite. D'après Matignon, ces 100 milliards d'euros sont soutenables pour les finances publiques, car en dehors de la baisse des impôts de production, aucune dépense n'est pérenne. Et le pari qui est fait, c'est donc de financer à terme ces milliards par la croissance retrouvée. On n'augmentera pas les impôts. Assure sur tous les tons le Premier ministre et le ministre de l'économie. Résultat, les dépenses viendront alimenter notre dette, qui représentait déjà 121% du PIB dans le dernier budget rectificatif. Mais à terme, il faudra sans doute faire des réformes de structure pour générer des économies, reconnaît-on à Bercy, qui cite 2 réformes, celle des allocations logement et celle des retraites. Et là, on parle du volet financier. Mais le gouvernement allumera-t-il une nouvelle fois la mèche ? Les clés sont désormais dans les mains de l'exécutif.
Et pour avoir une vision de ces éventuels changements structurels, pour, je cite, « rééclairer l'action publique d'une vision de long terme », un haut commissaire au plan va être nommé en Conseil des ministres ce matin également. Emmanuel Macron a choisi François Bayrou, figure historique du Centre, ancien candidat à l'Élysée, fidèle soutien du président. Il avait été écarté du gouvernement en 2017 à cause de l'affaire des emplois présumés fictifs de son parti. Il a d'ailleurs été mis en examen en décembre dernier. 2 ans après leur interdiction, les revoilà bientôt dans certains champs en France. Les néonicotinoïdes font leur retour, en tout cas pour les cultures de betteraves sucrières touchées par la jaunisse. Ces insecticides avaient été interdits en 2018 pour leurs effets jugés néfastes sur les abeilles, mais le gouvernement décide donc de les réautoriser. Le texte de loi présenté ce matin au Conseil des ministres ne précise toutefois pas qu'il ne s'agit que des betteraves, Rosalie Lafarge.
Mentionner betterave dans le projet de loi, c'est prendre le risque d'être retoqué par le Conseil constitutionnel, dit le gouvernement. Mais l'exécutif s'y engage, ce sera précisé dans l'arrêté de réautorisation pris chaque année par les ministères de l'Agriculture et de la Transition écologique.
Des engagements oraux ne suffisent pas.
L'ancien marcheur, désormais coprésident du groupe Écologie, Démocratie, Solidarité à l'Assemblée, Mathieu Orphelin.
C'est absolument pas acceptable que ce projet de loi soit aussi large. D'autant qu'on sait bien que dès maintenant, un certain nombre de fédérations représentant les producteurs d'autres cultures comme le maïs, demandent des dérogations à leur tour pour revenir et permettre l'utilisation à nouveau de ces pesticides tueurs d'abeilles, très dangereux pour la biodiversité.
Une inquiétude partagée en début de semaine par le député MoDem allié de la majorité, Erwan Balanan. Il s'en est ému sur les réseaux sociaux et même si les dernières nouvelles le rassurent...
Deux ministres s'engagent en disant betterave. Moi, je suis d'accord pour toper et pour faire confiance.
Il promet de rester vigilant.
Je ne dis pas qu'il n'y a pas un problème. Hein. Je pense que pour les betteraviers, il y a un sujet. Et donc, il faut leur permettre de continuer leur transition. Moi, ce que j'aimerais aussi, c'est que cette transition, elle soit vraiment effective. Et cette alerte que je fais, qu'on ait un certain nombre à faire, je dis oui pour de nouveau une dérogation, voilà, qui redurerait 3 ans. Mais pendant ce temps-là, il faut que le travail soit actif pour sortir de ce type de pesticides.
La réautorisation aujourd'hui temporaire doit être accompagnée d'une série de mesures pour l'encadrer, dont un budget de 5 millions d'euros pour accélérer notamment la recherche de solutions.
Un projet de loi contre lequel s'insurge aussi Génération Écologie. Le mouvement a lancé hier une campagne à ce propos dénonçant la toxicité des néonicotinoïdes. Le procès des attentats de janvier 2015 s'est ouvert hier devant la Cour d'assises spéciale de Paris. Elle siège exceptionnellement dans le nouveau palais de justice de la capitale, un palais sous haute surveillance depuis hier, avec des protagonistes masqués. C'est l'image qui a dominé cette première journée d'audience consacrée à l'appel des témoins et au rappel des faits reprochés. Sur les 14 accusés, 3 sont en fuite. 11 personnes ont donc pris place dans 2 boxes différents hier. Florence Turme.
On n'a pas encore entendu leur voix, si ce n'est pour décliner leur identité. On a découvert qu'une partie de leur visage, masque imposé à tous, et leur nom reste inconnu du grand public. Deux d'entre eux, Nezar Pastor Alouatik et Amar Hamdani, ont été incarcérés par le passé avec Amedi Koulibaly, affecté comme lui à la buanderie de la prison de Villepinte. Un lien jamais rompu, comme en attestent les nombreux contacts téléphoniques et plusieurs rencontres avant les attentats. L'ADN de Nezar Pastor Alouatik a par ailleurs été retrouvé sur 2 armes découvertes en perquisition dans un appartement loué par le tueur de l'hypercacher. Il y a aussi Metin Karasular, un garagiste kurde de Charleroi. Lui a joué les intermédiaires pour revendre la Mini Cooper achetée frauduleusement par Koulibaly et sa compagne. Il est aussi soupçonné d'avoir participé au transport d'armes entre la France et la Belgique avec son ami Michel Catineau. Metin Karasular, qui a multiplié les versions fantaisistes au cours de l'instruction, il reconnaît bien avoir mis en contact 2 autres hommes soupçonnés d'avoir fourni des armes au frère Kouachi avec le principal accusé présent, Ali Reza Polat, mais pour lancer ensemble un commerce.
Florence Turme qui suit pour France Culture ce procès hors norme, procès filmé pour l'histoire, comme Florence vous l'explique également sur notre site internet franceculture.fr. Emmanuel Macron s'est emporté mardi soir au Liban contre un journaliste du Figaro. Il a accusé en public Georges Malbruno d'avoir été irresponsable en écrivant un article qui évoquait la menace française de sanctions contre des responsables libanais qui bloqueraient des réformes. Irresponsable pour les intéressés et grave d'un point de vue déontologique selon le président français qui était filmé à ce moment-là. L'incident est clos depuis selon le Figaro et l'Élysée. Nous y reviendrons dans le journal de 7h. D'ici là, penchons-nous sur l'autre visite d'Emmanuel Macron. Après le Liban, il était hier en Irak, rencontrant les principaux responsables irakiens et kurdes. Pour soutenir la souveraineté du pays, le président a directement dénoncé la Turquie et l'Iran, qu'il accuse d'ingérence en Irak. Notre correspondante à Bagdad, Lucille Wasserman, nous raconte.
Il l'avait annoncé la veille, Emmanuel Macron se rendait en Irak pour encourager le pays dans sa démarche de souveraineté. Il l'a donc répété à sa conférence de presse, le pays doit se doter d'un État fort.
Le défi des autorités, c'est évidemment de renforcer l'État irakien, son indépendance, sa capacité à défendre l'intérêt général. C'est lorsque l'État est faible, lorsque il ne produit plus les services que la population est en droit d'attendre, que des ingérences sont facilitées parce qu'elles les produisent à leur place.
À ce titre, Emmanuel Macron n'aurait pas pu être plus direct en dénonçant les activités de l'Iran et de la Turquie dans la région.
L'ensemble de ces défis internes sont extrêmement importants et ils sont d'autant plus importants qu'ils se jouent dans un contexte régional extraordinairement tendu, avec, nous le savons, une présence et une influence très forte de l'Iran et avec également des incursions répétées et une volonté récente, encore accrue, de la Turquie d'intervenir davantage dans la vie domestique irakienne.
Le chef d'État français semble vouloir ainsi offrir une troisième voie à l'Irak, pris en étau depuis de nombreuses années entre les États-Unis et l'Iran.
C'était Lucille Wasserman depuis Bagdad. Le gouvernement de Donald Trump prépare activement la distribution à grande échelle d'un éventuel vaccin contre le nouveau coronavirus. En tout cas, hier, la Maison-Blanche a évoqué le 1er novembre au plus tard, c'est-à-dire juste avant l'élection présidentielle outre-Atlantique. C'est sur les côtes de la Manche que quelques gouttes de pluie vont tomber aujourd'hui en France métropolitaine. Ailleurs, le ciel restera ensoleillé avec 13 à 21 degrés ce matin du nord au sud.